Merci d'écouter RFI, les 7h à Paris, 9h à Damas, 6h en temps universel.
Andréane Mélard.
Et le journal vous est présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
Bonjour Andréane, bonjour à toutes et à tous.
Le mal pur, une violence choquante, une haine insensée, pluie de réactions après l'attaque à la voiture Bélier de la Nouvelle-Orléans.
15 personnes au moins ont été tuées, une trentaine d'autres blessées dans cette attaque perpétrée dans le French Quarter, le quartier historique de la ville. Le FBI privilégie la piste terroriste. On fait le point dès le début de cette édition. Près d'un mois après la chute du régime de Bachar al-Assad, les chantiers sont nombreux en Syrie. Réparer la diplomatie internationale, organiser la transition, mais aussi, vous l'entendrez, régulariser la situation des forces de sécurité de l'ancien pouvoir. Et puis à venir également, le pic d'émissions de gaz à effet de serre doit être atteint en 2025. Oui, mais seulement à condition que la Chine fasse des efforts.
Le bilan s'est alourdi à la Nouvelle-Orléans. Après l'attaque du Nouvel An, 15 personnes au moins sont mortes, une trentaine d'autres sont blessées.
C'est ce qu'ont affirmé il y a quelques heures les autorités américaines. Après cette attaque à la voiture Bélier dans le French Quarter de la Nouvelle-Orléans, quartier historique, emblématique et très animé, l'enquête en est encore à ses débuts. Mais le FBI privilégie déjà la piste terroriste, notamment car un drapeau du groupe État islamique a été retrouvé dans le véhicule du principal suspect, abattu le soir même. Loubna Anaki, vous êtes notre correspondante dans la région. L'auteur de l'attaque semble donc avoir été identifié.
Oui, il s'agit d'un citoyen américain âgé de 42 ans. Son nom, Shamsuddin Jabbar. Il est originaire du Texas. Il a servi 13 années dans l'armée et a même été déployé en Afghanistan en 2009 avant de quitter le service avec les honneurs en 2020. Il a deux filles âgées de 15 et 20 ans, issues d'un premier mariage. Il se serait converti à l'islam au cours des dernières années et avait apparemment d'importants problèmes d'argent selon des documents officiels relatifs à son deuxième divorce. Selon les autorités, il a loué le pick-up utilisé dans l'attaque à Houston sur une application de location de voitures entre particuliers et sur la route entre le Texas et la Nouvelle-Orléans. Il a enregistré des vidéos dans lesquelles il raconterait avoir eu d'abord l'intention de réunir les membres de sa famille pour les tuer avant de changer d'avis et de plan. Sur ces mêmes vidéos, il explique avoir été inspiré par l'État islamique. Les enquêteurs estiment qu'il n'a probablement pas agi seul. Ils espèrent en apprendre plus en perquisitionnant son domicile à Houston.
Houston, c'est à plusieurs centaines de kilomètres de la Nouvelle-Orléans. Alors comment expliquer que l'assaillant présumé ait fait un tel déplacement? Eh bien car le Carré français est un quartier connu pour sa diversité, mais aussi un lieu qui brasse en permanence beaucoup de monde, ce qui en fait une cible idéale pour un terroriste, selon Radhi Balbouzi, journaliste américain qui se trouvait sur place quelques instants avant le drame.
C'est une rue piétonne et nous avons vu dans le monde entier des attentats identiques, dans les marchés de Noël par exemple. Si vous voulez faire un grand nombre de victimes, vous savez, même à 3h15 du matin, Bourbon Street, c'est noir de monde, en particulier le soir du Nouvel An. C'est donc un endroit où il y aura plein de victimes. C'est pour ça qu'il l'a choisi. Et puis, vous savez, le quartier français est connu aux États-Unis et dans le monde entier. C'est un point de repère que tout le monde connaît. Ce n'est pas comme une petite ville de l'Ohio. Faire un attentat ici, c'est comme faire un attentat sur Times Square ou sur Trafalgar Square. C'est unique et c'est ça qui en fait une cible.
That makes it a target. Propos recueilli par Daniel Valo. Loubna, vous êtes toujours en ligne avec nous. L'attaque a été perpétrée le soir du réveillon, c'est bien sûr symbolique, dans un lieu chéri des Américains et connu de la communauté internationale. Alors forcément, les réactions se multiplient depuis hier matin.
Oui, le gouverneur de Louisiane parle d'un acte de violence horrible, le mal pur, a affirmé la chef de la police locale. Joe Biden, tout en appelant à, je cite, ne pas aller trop vite en conclusion, a apporté son soutien et ses condoléances aux victimes et leurs proches. Donald Trump, lui, n'a pas réagi depuis que le suspect a été identifié. Il avait juste avant laissé entendre qu'il s'agissait d'un acte commis par un étranger.
Et les autorités américaines enquêtent également après l'explosion d'un véhicule Tesla Cybertruck, la marque d'Elon Musk, devant l'hôtel Trump de Las Vegas, à quelques semaines de l'investiture de Donald Trump. Et en raison des liens forts entre les deux manias, les autorités s'interrogent sur un éventuel rapport entre les deux événements. Et des réactions à l'international également. Le chef d'État ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit horrifié. Il a assuré que son pays se tient aux côtés du peuple américain, tandis qu'en Israël, le chef de la diplomatie Gideon Saar s'est dit profondément attristé.
Israël qui poursuit ses frappes dans la bande de Gaza.
D'après des médecins sur place, 8 personnes au moins sont mortes dans un raid contre une banlieue de Gazaville cette nuit. Plutôt hier, 17 personnes avaient été tuées dans le camp de réfugiés d'Al-Bourej et dans la ville de Jabalia. L'État hébreu qui pourrait encore accélérer ses opérations. Le ministre de la Défense, Israël Katz, a mis en garde contre des coups d'une intensité que Gaza n'a plus vue depuis longtemps. Le chef de la diplomatie syrienne, lui, est en Arabie Saoudite un peu moins d'un mois après l'arrivée au pouvoir de la rébellion menée par le HTS. La diplomatie s'active à l'extérieur, mais à l'intérieur de la Syrie aussi, il y a de nombreux chantiers à mettre en branle, et notamment la régularisation des anciennes forces de l'ordre du régime de Bachar al-Assad. À Damas, Mohamed Erami.
Les militaires ayant servi sous Bachar al-Assad se rassemblent devant ces centres pour remettre leurs armes et entamer les procédures de régularisation afin d'éviter des poursuites judiciaires. L'un d'eux, rencontré devant le centre de Medze, a partagé son expérience.
Je suis venu aujourd'hui pour régulariser ma situation et faire une régularisation avec l'Ayat. J'étais lieutenant dans l'ancien régime militaire et cette régularisation me permettra d'améliorer ma situation de vie. J'espère que cette étape se déroulera bien. Les démarches ici sont simples et l'accueil est très bon.
À l'intérieur du centre, les fonctionnaires ne chôment pas. Ils doivent répondre aux demandes des Syriens venus régulariser leur situation, d'anciens membres du régime et réintégrer légalement les déserteurs. Après des interrogatoires et des vérifications, ceux dont les mains ne sont pas entachées de sang reçoivent une protection juridique. Abou Yamen, l'un des responsables du centre.
La direction militaire a émis une liste de personnes recherchées par les forces de sécurité pour être poursuivies. Et une nouvelle liste sera publiée, incluant les noms de ceux qui ont commis des crimes contre les Syriens. Conformément à cette décision, des sanctions seront appliquées.
Bien que les nouvelles autorités syriennes n'aient pas publié de chiffres officiels sur le nombre de personnes régularisées, le ministère de l'Intérieur a indiqué que ces individus recevront une carte d'identité spéciale, valable 3 mois, garantissant leur protection contre toute poursuite pendant cette période. Mohamed Erami, Damas, RFI.
RFI 7h07 à Abuja, où les autorités nigérianes contre-attaquent après un avertissement de l'Australie.
Oui, un récent communiqué de la diplomatie australienne déconseille vivement aux voyageurs de se rendre au Nigeria en raison de risques sécuritaires. Et la réaction ne s'est pas fait attendre. Lisa Fabian, le pays le plus peuplé d'Afrique, met à son tour en garde contre des risques de discrimination et de harcèlement.
Sur le site Smart Traveler du ministère des Affaires étrangères australien, l'avertissement est clair. Il est vivement déconseillé de se rendre au Nigeria, y compris dans la capitale Abuja, du fait d'une situation sécuritaire volatile, de menaces de terrorisme, de kidnapping, de crimes violents et de troubles sociaux. Les voyageurs sont sommés d'éviter totalement 24 États fédérés sur les 36 que compte le Nigeria. Toutes les régions du nord-est, du nord-ouest et du sud-est du pays sont incluses dans cette liste, dans laquelle on retrouve aussi le territoire de la capitale fédérale, la région d'Abuja. Ces recommandations mises à jour le 20 décembre n'ont visiblement pas été du goût du ministère des Affaires étrangères au Nigeria, qui n'a pas tardé à émettre ses propres conseils aux voyageurs souhaitant se rendre en Australie. Les Nigérians dans le pays doivent se montrer prudents face à l'augmentation d'incidents antisémites ou islamophobes liés au contexte international et qui accroissent le risque de violence. Les autorités nigérianes pointent aussi des cas de discrimination, de harcèlement ou d'insultes envers les étrangers dans certaines villes australiennes.
Lisa Fabian. 10 morts au Monténégro. Un homme armé a fait irruption dans un restaurant local, puis s'est rendu dans plusieurs autres lieux de la ville. Il s'agirait d'une bagarre ayant mal tourné, un événement privé selon les autorités qui ont tout de même décrété 3 jours de deuil national.
Ce n'est pas vraiment une surprise. Hein. L'année 2024 a probablement été la plus chaude jamais enregistrée.
Mais il faut encore attendre confirmation. Mais pour l'Organisation météorologique mondiale, 2024 devrait être une année record. Et cela pourrait encore empirer puisqu'en 2025, la croissance des émissions de gaz à effet de serre pourrait atteindre un sommet. Plus tôt ce pic aura lieu, plus les effets du réchauffement climatique pourront être évités. Dans l'idéal, il faudrait que ce pic ait lieu cette année, en 2025. Sauf que pour y parvenir, il faudra des efforts des plus gros pollueurs, et particulièrement de la Chine, Pauline Glaise.
La Chine s'est engagée à atteindre son pic d'ici 2030, mais une partie des experts estime que cela pourrait arriver plus vite que prévu. Pour 2024, la croissance des émissions de dioxyde de carbone issues des combustibles fossiles pourrait être quasi nulle. Au deuxième trimestre, les émissions de CO2 ont d'ailleurs légèrement baissé selon Carbon Brief. La crise du marché immobilier l'explique en partie. Cela a fait chuter la production d'acier et de ciment, deux matériaux très émetteurs. Par ailleurs, les énergies éoliennes et solaires sont en pleine expansion. Il n'empêche, selon l'Agence internationale de l'énergie, la part du charbon dans le mix électrique de la Chine devrait encore avoir augmenté en 2024. Certes, le nombre d'autorisations de nouvelles centrales à charbon est en chute libre, mais de nouvelles unités sont toujours construites. Cela reste donc très incertain. Ensuite, si pic il y a, restera à voir la nouvelle dynamique. Les émissions vont-elles baisser ou simplement se stabiliser ? Selon le Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur, pour que le monde respecte l'accord de Paris, il faudra que la Chine baisse ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 30% d'ici 2035.
Pauline Glaise.
Et comme toujours, Léa, on termine avec la suggestion culture de RFI, du théâtre aujourd'hui, et cette adaptation audacieuse du Marius de Marcel Pagnol.
Et Marius, ce sont les pulsions de liberté d'un boulanger qui rêve d'ailleurs. Et pour raconter cette histoire, quels meilleurs interprètes que d'anciens détenus ? Ce projet, c'est celui du metteur en scène Joël Pomera. Il a rencontré il y a 10 ans un prisonnier passionné de théâtre, Jean Ruimi. Une décennie plus tard, ce dernier est libre, le reste de la troupe aussi. Et tous ensemble, ils ont donc adapté la pièce de Marcel Pagnol avec humour et décomplexion, Muriel Malouf.
Marius rêve de prendre le large, de tourner le dos au chemin tout tracé, de reprendre la boulangerie de son père à Marseille et d'épouser son amour Fanny.
L'énorme volet australien qui est là depuis une semaine. Et je connais le mec qui recrute. C'était toujours partant, on part 6 mois faire une série de croisières dans le sud.
Ah, comment je fais, moi ? Avec la boulangerie, mon père.
Mais t'as vu le bateau que c'est ? Tu vis ton rêve, mon vieux.
Ce rêve de liberté de Marius, les anciens détenus de la prison d'Arles l'ont embrassé à bras-le-corps. Sur scène, 6 gaillards, 6 corps d'hommes qui ont connu la détention racontent dans leur chair le désir de liberté. Joël Pomera a adapté le récit de Marcel Pagnol avec Jean Ruimi qui joue le rôle de César, le père. Ils ont écrit une pièce pleine d'humour d'où jaillissent des cris pour la vie. Rester, c'est mourir pour Marius. Jean Ruimi.
Vous savez, c'est les paroles qu'on entend dans les prisons. Je meurs, le mouroir, c'est quoi ? C'est mourir en prison. C'est pour ça que je voulais faire cette pièce avec Joël, parce qu'il y avait cette liberté qui nous donnait envie de voir plus loin, quoi.
Joël Pomera, connu pour ses mises en scène oniriques, a conçu cette fois une pièce classique dans un décor réaliste. Sa force, ce sont les acteurs pour qui le théâtre est une forme de survie.
Et Jean-Rémy est l'invité culture de RFI ce matin. Entretien à retrouver dès à présent sur www.rfi.fr ou sur l'application Pure Radio.
Tout comme ce journal, merci Léa Boutin-Rivière et à tout à l'heure. Il est 7h13 à Paris, RFI Matin, l'info africaine dans un peu plus d'un quart d'heure, la Guinée à la une. L'année 2025 sera une année électorale cruciale pour parachever le retour à l'ordre constitutionnel, a déclaré le général Mamadi Doumbouya lors de ses vœux. Quelle réaction hier à Conakry, reportage à suivre. La Guinée, c'est aussi au cœur de votre émission Appel sur l'actualité. Aujourd'hui, rendez-vous à 9h10. Avant ça, notre invité international ce matin, le cinéaste haïtien Pierre-Michel Jean. Quelle est la situation à Port-au-Prince en cette fin d'année? On en parle dans 5 minutes, mais d'abord le sport. Bonjour Christophe Diremzian.
Bonjour Andréane.
À la une, le football. L'Arsenal maintient un peu le suspense en première ligue en restant à portée de Liverpool à l'issue de la 19e journée.
Oui, les Gunners, ce sont actuellement à peu près les seuls à ne pas donner l'impression que les Reds peuvent encore échouer dans leur quête du titre. Les Londoniens ont lancé leur année 2025 en allant gagner à Brentford 3-1 et limitent toujours leur retard sur le leader à 6 longueurs. 3 victoires d'affilée en 12 jours pour les joueurs de Mikel Arteta, malmenés quand même en début de match puisqu'ils ont été menés au score avant de renverser la rencontre, sans paniquer face à un adversaire toujours un peu compliqué à gérer, comme le rappelle leur entraîneur.
C'est très difficile de venir jouer ici. Ils ont de très bons résultats à domicile, ils jouent bien et posent beaucoup de problèmes à toutes les équipes qui viennent. En plus, on était menés, donc c'est devenu très difficile, mais on a su rester calme et on en avait besoin. On a insisté, on a continué à attaquer et à les mettre en difficulté, et au final, je pense qu'on mérite la victoire.
Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, qui enchaînera dès samedi avec un autre déplacement, cette fois à Brighton.
En Italie, ce sont les deux équipes les plus en forme actuellement qui s'affrontent en demi-finale de la Supercoupe.
L'Inter Milan, invaincu depuis 13 rencontres sur la scène nationale, reçoit l'Atalanta Bergame, l'irrésistible leader de la Serie A. De quoi fournir, a priori, un joli spectacle, estime l'entraîneur de l'Inter, Simone Inzaghi, conscient quand même de préparer un duel particulièrement relevé.
S'affrontano due squadre.
Les deux équipes qui se rencontrent aujourd'hui sont en train de faire une grande saison, en Serie A comme en Ligue des Champions. La grande réussite de l'Atalanta, hormis avoir remporté la Ligue Europa la saison dernière, ce qui est évidemment une performance incroyable, c'est qu'ils ne sont plus vraiment l'équipe surprise. Cela fait plusieurs années qu'ils sont au top dans toutes les compétitions, donc ce sera un match difficile pour nous. C'est toujours le cas contre l'Atalanta. On devra être à notre meilleur niveau contre un adversaire très en forme.
Simone Inzaghi, demi-finale de la Supercoupe d'Italie, Inter Milan Atalanta, 19h temps universel. L'autre aura lieu demain entre la Juventus Turin et le Milan AC. Très large détour par l'Australie pour le premier tournoi de tennis de la saison 2025 à Brisbane. Novak Djokovic, 7e mondial actuellement, affronte tout à l'heure en 8e de finale Gaël Monfils, un des deux Français encore en lice avec Giovanni Pecci-Péricard opposé à l'Américain Frances Tiafoe. En revanche, élimination de Benjamin Bonzi, sorti en 2-7 par le Chilien Nicolas Jarry.
Enfin, notre petit point quotidien sur le vent des globes.
Et c'est plus serré que jamais en pleine remontée de l'Atlantique au large du Brésil pour les hommes de tête. Au tout dernier classement tombé il y a quelques minutes, Charlie Dalin reste aux commandes de la course, mais avec seulement 18 000 d'avance sur Johan Richomme. Troisième, Sébastien Simon, mais beaucoup, beaucoup plus loin, 348 000.
Christophe Diremzian pour l'Infosport ce matin. Aujourd'hui, l'économie avec Stéphane Geneste. Bonjour Stéphane.
Bonjour Andréane.
On pourrait même renommer ce jeudi ce rendez-vous demain l'économie, puisqu'avec vous Stéphane, on s'intéresse ce matin aux grands défis et enjeux de l'économie mondiale pour cette année qui débute, avec certains mots qui vont faire la une de l'actualité économique.
Et celui que vous allez beaucoup entendre cette année, Andréane, c'est le mot protectionnisme. Cela pour de multiples raisons, mais la première, c'est l'arrivée à la Maison-Blanche de Donald Trump. La politique économique du futur président américain est bien le gros dossier de ce début d'année 2025. Parmi les mesures phares de repli sur soi qu'il envisage, l'application de droits de douane de 10 à 20% sur toutes les importations. Cela pourrait aller jusqu'à 60% pour les produits chinois. Alors on ne sait toujours pas si ces menaces sont réelles ou s'il s'agit là d'un premier pas ou plutôt d'un coup de pied dans la négociation. Mais cette intensification des tensions commerciales pourrait entraver la croissance des échanges mondiaux.
Et donc c'est l'incertitude qui demeure.
Plus que jamais, le Fonds monétaire international l'a même expliqué dans ses dernières perspectives de l'économie mondiale. Préparez-vous à des temps incertains. La présidence de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, elle, est beaucoup plus catégorique. Elle affirme que l'incertitude sera, je cite, « abondante » en 2025. Incertitude, on le disait, en raison de la politique de Donald Trump à la tête de la première économie mondiale. Incertitude également expliquée par les conflits en cours à travers le monde et en premier lieu celui au Proche-Orient. Sur le long terme, il pourrait avoir des effets négatifs sur le marché de l'énergie.
Et puis, il y a aussi la situation de la Chine qui compte dans cet équilibre mondial.
Puisque si les taxes douanières américaines sont appliquées, Pékin devra trouver de nouveaux partenaires et mettre au point de nouvelles alliances. Mais on l'a dit, ça va se compliquer avec les États-Unis. Les entreprises chinoises pourraient être tentées d'intensifier leur concurrence en Europe. Mais ça pourrait être tout aussi compliqué avec les Européens.
Et c'est-à-dire ?
Eh bien, l'industrie européenne est à la peine, en partie parce que la concurrence chinoise est justement féroce. C'est donc l'une des priorités de la nouvelle Commission européenne, la sécurité économique des 27. Cela se traduit, comme aux États-Unis, par une hausse des taxes. C'est d'ailleurs déjà acté pour les voitures électriques chinoises, jusqu'à 38%. Et puisqu'on parle d'Europe, impossible de ne pas évoquer le moteur du continent, l'Allemagne, empêtrée dans des crises politiques, économiques et sociales. Berlin va devoir revoir cette année son modèle, investir massivement et revoir ses règles de l'endettement si elle veut éviter de nouvelles fermetures d'usines et des dizaines de milliers de licenciements, comme c'est aujourd'hui le cas avec, par exemple, Volkswagen.
Bon, Stéphane, vous nous dites qu'il y a quand même du positif.
Oui, Andréane, si on regarde du côté de la croissance, eh bien, les indicateurs sont au vert. D'après l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, la croissance mondiale pour cette année 2025 devrait rester positive. Les prévisions parlent d'une tendance autour de 3%. Les économies du monde devraient ainsi rester résilientes. La désinflation, elle, c'est-à-dire la baisse de l'inflation, devrait continuer. Les taux d'intérêt aussi devraient diminuer. Bref, vous l'aurez compris, 2025 s'annonce une nouvelle fois riche en actualités économiques. Nul doute qu'elle sera aussi riche en surprises, Andréane.
Et vous serez avec nous en 2025 pour décrypter tout ça dans notre rendez-vous chaque jour. Aujourd'hui, l'économie à 7h15. Merci Stéphane Geneste. Notre grand invité international ce matin pour parler de la situation en Haïti. Bonjour Pierre-Michel Jean.
Bonjour Madame Mélard.
Vous êtes haïtien, cinéaste, photo-reporter. La situation en Haïti est toujours extrêmement préoccupante. Le pays, et plus particulièrement la zone métropolitaine de Port-au-Prince, sa capitale, est plongée dans une spirale de violence extrême due aux gangs armés. Violence qui a fait des milliers de morts rien qu'en 2024. Sans oublier qu'Haïti est en plus confronté à une crise politique et humanitaire très importante. Les témoignages sur place sont rares et précieux. C'est pourquoi on est très content de vous avoir en ligne avec nous ce matin, Pierre-Michel Jean, merci d'être là. Alors, vous qui vivez à Port-au-Prince, est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est passé le passage à la nouvelle année? D'abord, nous décrire votre vie sur place. Comment est-ce qu'on vit aujourd'hui à Port-au-Prince?
Alors, la vie à Port-au-Prince, c'est très, très difficile. On limite nos déplacements. Alors, pour vous dire bien, 24 décembre, il y a eu à l'hôpital général, dans le cadre d'une réouverture, des morts de journalistes. Donc voilà, cette série de fêtes de fin d'année a été émaillée de violence, comme vous le savez. Par exemple, aujourd'hui, qui est encore 1er janvier pour nous, qui est l'équivalent un peu de la fête de famille pour nous en Haïti, c'est-à-dire nous partageons la soupe d'indépendance. Ça a été plus, plutôt que l'actualité politique, ça a été plutôt des potins de ragots sur les chefs de gang, leur histoire, voilà, sur les réseaux sociaux. C'est plus ça qui était sujet des conversations dans les repas de famille. Donc, pour vous dire, ça a été un peu une ambiance, pesante, et voilà, dans les familles, en tout cas dans la mienne. Ouais.
Alors, cette fusillade qui a éclaté donc en pleine réouverture de l'hôpital de l'Université d'État de Port-au-Prince, hein, c'est ça dont vous parliez à l'instant. Deux journalistes donc et un policier ont été tués lors de cette fusillade, sans oublier les nombreux blessés. Comment est-ce que vous avez vécu ce drame? Est-ce que d'après vous, il aurait pu être évité?
Moi, j'étais pas sur place. Je suis passé peut-être une heure avant. Mais j'ai eu ce sentiment que j'ai échappé belle parce que j'aurais pu être sur place. Effectivement, ce drame aurait pu être évité parce que je pense on avait convié des journalistes dans un espace qui n'était pas encore tout à fait sécurisé. Et on n'a pas le sentiment que voilà, la reprise en main du centre de Port-au-Prince est actée par la police. On voit beaucoup de gesticulations, mais voilà. Je pense qu'ils ont fait un peu, c'est-à-dire ses collègues journalistes ont fait les frais d'une opération de com, d'un ministre, une opération de com, qu'il réouvre un hôpital dans une zone qui n'était pas tout à fait sécurisée. Et c'est dommage, je pense qu'Haïti mérite mieux que ça, les travailleurs de la presse méritent mieux que ça, voilà.
Alors, vous parlez justement des travailleurs de la presse. Pour vous, est-ce que c'est une population qui est en danger? Est-ce que vous diriez, vous, que votre travail est entravé au quotidien?
Alors, le travail des journalistes est en danger, mais pas que. Il y a deux semaines de cela, j'ai été couvrir une performance d'un artiste dans un camp de déplacés et voilà. En pleine performance, il y a eu des balles perdues qui ont atterri sur le camp et il y a eu une femme blessée. Donc, c'est pour vous dire, que pas plus tard que ce matin, j'ai dû déplacer mon bureau parce que j'habite dans un quartier résidentiel proche de Port-au-Prince. Il y avait tellement que les tirs étaient proches, j'ai comme cette impression que des balles perdues pouvaient atterrir, voilà, pouvaient m'atteindre depuis la fenêtre. J'ai dû déplacer le bureau pour la mettre collée à un mur et juste au cas où, pour vous dire qu'il n'y a pas que les travailleurs de la presse, je pense que tout le monde est exposé et c'est une situation qui n'est plus tenable.
Pierre-Michel Jean, vous désirez rester en Haïti, continuer à travailler sur ce pays qui est le vôtre?
Alors, travailler sur Haïti, voilà, on a la chance de faire ça parce que c'est une histoire en train de s'écrire. On a le sentiment que nos créations arme un peu l'esprit des jeunes qui vont peut-être, voilà, je touche du bois, porter cette révolution, c'est-à-dire changer la situation en cours. Parce que franchement, pour vous dire vrai, ma génération, elle se dit peut-être qu'elle a raté l'occasion de changer le pays. Et je pense des collègues créateurs, artistes, et qui vivent sur place, voilà, ils sont encore animés par cet esprit de donner à cette jeunesse qui s'en vient les armes pour, voilà, pour à son tour faire les choses bien et empêcher ou changer nos conditions de vie.
Donc changer vos conditions de vie, s'investir pour vous, ça passe par votre travail?
Oui, forcément, parce que je m'engage dans ce que je fais. Je fais des films, je fais du reportage et dans le contexte haïtien, c'est déjà beaucoup. Et je pense voilà, que les jeunes, les Haïtiens ont besoin d'informations de qualité, ont besoin de films qui mettent en perspective des choses et leur donnent un peu voilà, une vue d'ensemble sur la situation qu'ils vivent actuellement et ce qui s'est passé aussi. Parce que moi, mon dernier film parle du passé et le prochain parlera de ce que nous vivons, mais aussi toujours avec une note sur la création en train de se faire. Donc voilà, c'est des choses comme ça.
Votre dernière production sortie en 2024 qui s'appelle « L'oubli tue deux fois ». Alors vous avez exploré de nombreuses thématiques, hein, Pierre-Michel Jean, dans vos réalisations. Vous avez raconté beaucoup d'événements et notamment ce tremblement de terre dévastateur et meurtrier qui a touché Haïti le 12 janvier 2010. Ça fera 15 ans dans quelques jours, qui a fait 280 000 morts, plus de 300 000 blessés, sans oublier toutes les destructions. Vous vous souvenez de ce jour ?
Oui, oui, je pense que c'est à chaque année, c'est comme je l'ai dit dans ce film, c'est depuis 15 ans, on se rappelle et on se rappelle de ce qu'on a fait ce jour-là, où est-ce qu'on était quand c'est arrivé. Et je pense, voilà, c'est une date à marquer d'une pierre blanche dans notre histoire contemporaine. Franchement, en tout cas, ma génération, elle est très, très marqué par le tremblement de terre et c'est ce qui m'a autorisé à faire du documentaire, du cinéma même, parce que je pense que ça a impacté la vie de beaucoup de gens. Ils ont changé de carrière parce qu'il y a eu le tremblement de terre et ça a été mon cas. Et ce sera une date pour se souvenir, mais aussi pour mettre en perspective des choses parce que, voilà, beaucoup de choses ont été dites après ce malheur, mais je pense qu'on n'a pas encore tout à fait accusé le coup.
Et ça résonne d'une manière particulière, bien sûr. Alors, pour terminer, en quelques mots, si vous deviez avoir un souhait pour l'année à venir?
Alors, souhait, franchement, j'ai l'impression que nous autres Haïtiens, nous avons appris depuis des années à reconduire nos souhaits, c'est-à-dire celui pour les Haïtiens de vivre dans un pays en paix, prospère, et qu'on puisse apporter notre part à l'histoire, à l'humanité. Haïti de tout temps a été capable de former et de donner des femmes importantes, des hommes importants, et voilà, qui ont marqué la musique, la littérature, la peinture. Donc du coup, on voudrait continuer. On aspire à rien d'autre, à rien de plus et à rien de moins.
Merci Pierre-Michel Jean, cinéaste haïtien, photo-reporter, notre invité international ce matin, cet entretien. Et toutes nos infos sur Haïti sont à retrouver sur notre site internet et notre journal d'Haïti et des Amériques aussi, chaque jour du lundi au vendredi à 13h10, temps universel. Restez bien à l'écoute de la Radio du Monde. Dans une minute, l'information africaine.
Priorité santé.
Caroline Paré reçoit des spécialistes pour faire le point sur l'actualité médicale dans le monde. Aujourd'hui, la listeria et les salmonelles. Comment se prémunir de ces bactéries? Quels sont les symptômes qui doivent alerter? Demain, les troubles musculo-squelettiques chez les femmes. Une rhumatologue répond aux questions des auditrices.
Priorité santé
avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi, à partir de 9h10 TU sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI,
c'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Les forêts tropicales abritent une biodiversité exceptionnelle et elles jouent un rôle important dans la régulation du climat. Leur déforestation progresse, mais les scientifiques surveillent et certains se mobilisent pour enrayer cette destruction. Nos invités sont de ceux-là.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI. Ce jeudi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Juliette Garbrandt.
80 000 morts et 400 000 blessés, c'est l'estimation du nombre de victimes en Ukraine. Les blessés graves entament un parcours de rétablissement rendu difficile par le manque de moyens médicaux. Reportage près de Kiev où une clinique de neurochirurgie réalise malgré tout des interventions de pointe.
Accent d'Europe, tout à l'heure à partir de 11h35 TU sur RFI.